Gracianopolis. Yvan Mazel, Rémi Vigneron, l'émission sur la métropole grenobloise, Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour à tous, bienvenue dans le 10e numéro de Gracianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez la dernière émission de l'année de votre émission mensuelle d'information et de débat qui questionne l'évolution de la métropole grenobloise. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale de Gracianopolis. Vous allez découvrir ça tout de suite avec Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour Yvan.
Alors Rémi, c'est notre dernière émission de l'année. Qu'a-t-on préparé pour nos auditeurs ?
Eh oui Yvan, l'été est déjà là, le bitume est brûlant et la montagne nous invite à un bol de fraîcheur. Alors avant de prendre une pause estivale, revenons sur l'année écoulée.
Gracianopolis, c'est notre première émission de radio à tous les deux.
Effectivement, l'idée de proposer un tel projet à Radio Campus est née d'un constat. On s'est rendu compte que d'une manière générale, on ne connaît pas assez la ville et ce que cela implique de l'aménager, alors qu'une majorité d'entre nous y vit ou y travaille. Alors, pour explorer le thème de l'urbain et vous proposer certains des sujets qui dessinent notre quotidien, nous avons abandonné pour un temps nos terrains d'études et notre laboratoire à l'école d'architecture. Nous avons endossé le rôle de jeunes chercheurs en architecture et urbanisme au regard curieux et averti et découvert ou redécouvert en votre compagnie de nombreuses thématiques qui font de Grenoble une ville singulière.
Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur cette première saison donc. Vous l'aurez sans doute remarqué, la dernière question que nous posions à nos invités était la même dans chaque émission. Qu'est-ce que pour vous la métropole grenobloise ?
Cette question n'était pas anodine puisqu'au 1er janvier dernier, l'agglomération de Grenoble est devenue une métropole. Dans ce contexte, nous avons cherché au cours d'une première partie de la saison à dresser un portrait historique, un portrait économique, un portrait des transports et de l'habitat afin de comprendre les grands enjeux de notre communauté. Par la suite, nous sommes rentrés dans des sujets plus précis et plus contextualisés en parlant de certains quartiers ou de certaines initiatives. Et c'est ce que nous continuerons à faire l'an prochain. Donc, cette dernière question, qu'est-ce que pour vous la métropole grenobloise, comme tu le rappelais Yvan, appelait nos invités à partager avec nous un constat qu'ils faisaient sur l'état de la métropole, puis éventuellement leur vision et leurs idées pour l'avenir.
Ce sont donc aujourd'hui ces moments-là que nous vous proposons de réécouter et que nous avons organisés afin de savoir ce qui fait métropole ou pas à Grenoble. On va donc parler de l'échelle, des dynamiques métropolitaines, du cadre de vie environnemental, des initiatives sociales et culturelles, et puis on terminera sur les nouvelles institutions.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la métropole grenobloise ?
D'abord, il faut qu'ils redéfinissent ce que c'est une métropole, parce que c'est assez un peu abstrait pour l'instant. Moi j'entends l'ensemble de l'agglomération, des agglomérations. Mais maintenant, est-ce que c'est plus vaste, c'est moins vaste ? Il faudrait qu'ils redéfinissent un peu l'espace qu'il y a. Parce que moi je pense que c'est encore confus.
Pourquoi pas d'harmonie dans les immeubles bâtis autour, systématiquement ? La maison du tourisme est une verrue à Grenoble, apparemment on ne peut rien faire. Tout est comme ça. C'est décourageant. Moi, je dis que j'aime ma ville, mais que c'est une ville laide. J'ai presque honte. L'environnement est beau, mais je dis toujours, vous verrez, Grenoble est une ville laide qui a du charme.
Je vous dirais aussi le côté qui me fait peur un peu, c'est le béton.
Qu'est-ce qui se passe avec le béton ?
Le béton, il fait peur. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Grenoble, elle s'agrandit. Il faut reconnaître, hein. Moi, je me rappelle les années 60, 68, pour aller jusqu'à Fontaine. Ouais. Pour nous, c'était un... En fait, si on n'allait pas se dire, on va se perdre.
Donc la ville, elle est trop bétonnée, c'est ça que vous dites ?
Sincèrement, comment ça allait ? Vous connaissez les eaux claires ?
Ouais.
Allez voir comment. Bon, c'est le progrès, hein, on ne dit plus rien. C'est vrai que faut penser à ce qui arrive, logement.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie, des choses à améliorer ?
Les transports, je trouve qu'ils sont assez onéreux quand même. Ce serait bien de faire un ticket pour la journée.
Les lieux un peu de prestige qu'on a sur Grenoble, l'ancien musée de Verbin, le réhabilité, la tour Perret, je sais que le maire, mais bon, c'est des projets, il n'y a pas de... Les ciments handicap devaient être mécènes, mais bon, c'est abstrait. Moi, c'était ça, c'était un peu réhabilité, tout ce qui est monument historique.
Bon, déjà, moi, je trouve qu'on est dans une ville qui est très chaude l'été, très froide l'hiver. Je trouve que les parcs et la nature, ça, c'est sensationnel. Remettre du vert à l'intérieur, c'est nous faire renouer avec la terre, on en a besoin. Moi, toutes les initiatives que je vois autour de Grenoble semer ces sortes de jungles champêtres, je trouve ça absolument merveilleux, donc ça a accentué. Mais bon, voilà, j'aimerais que sur le plan architectural, je puisse pouvoir être fière de ma ville.
Pendant un an, nous nous sommes intéressés à Grenoble au sens large, plus exactement à la cuvette grenobloise. Alors Grenoble est-elle une métropole ou a-t-elle la stature d'une ville de taille moyenne ?
Grenoble, c'est une grande petite ville, une petite grande ville. Métropole, c'est presque un peu prétentieux. Bon, on réserve ça en général à des agglomérations d'une taille beaucoup plus importante.
Pierre Belliris, professeur de l'école d'architecture à Grenoble, nous rappelle ici la question primordiale de la taille quand on parle d'une ville. Pour les géographes et les urbanistes, la métropole est un pôle urbain. Elle concentre une grande population, y héberge des fonctions de décision économique, politique et culturelle, et elle exerce grâce à cela une influence sur son territoire environnant.
Oui, mais il faut peut-être préciser qu'il existe différents types de métropoles. Finalement, tout dépend de l'échelle et de la personne qui parle. Un géographe n'aura pas la même conception qu'un urbaniste sur la question. New York, Londres et Tokyo forment des métropoles mondiales. On parle aussi de villes globales. Paris rentre dans cette catégorie selon les points de vue. À l'échelle européenne, les capitales de certaines villes secondaires représentent une seconde catégorie de métropoles. En France, on parle de métropole lorsque l'on désigne les principales aires urbaines du pays et ce sont généralement des capitales régionales.
Gilles Novarina, professeur d'urbanisme, nuance le statut de métropole de Grenoble.
Quand même, les grandes métropoles sont des très grandes villes. On peut dire que Londres est une métropole, par exemple. C'est peut-être moins évident de la part pour Paris, par exemple. Alors Grenoble ou Lyon, c'est encore une catégorie de villes inférieure.
La dynamique métropolitaine se base sur les rythmes et les pratiques du territoire. Les habitants, par leur mode de vie, leur façon de se déplacer, les lieux qu'ils fréquentent, dessinent un bassin de vie. C'est dans cet espace vécu que se construit la vie quotidienne d'une métropole.
Gabriel Jourdan, spécialiste de la mobilité, perçoit quant à lui le territoire à travers les transports. La fréquence et la vitesse des déplacements ont largement augmenté au cours des 50 dernières années et cela a eu un impact sur l'échelle du territoire qui s'est considérablement élargi.
C'est clairement le grand bassin de vie, c'est clairement la grande région grenobloise, ça ne se limite pas à Grenoble et à sa proche banlieue.
On a maintenant compris que la métropole grenobloise ne se limite pas à la commune de Grenoble, dont M. Piolle est maire.
Effectivement, c'est l'ensemble des communes de la cuvette grenobloise. En tout, elle regroupe 49 communes, du Sapé en Chartreuse au nord, à Vif au sud et de Veurey-Voroise au pied du Vercors à Volnavay-le-Haut sur les pentes de Belledonne. La population totale compte 440 000 habitants, dont un tiers pour la commune centrale.
À l'échelle internationale, la région urbaine grenobloise est avant tout connue comme technopole. Alors Rémi, qu'est-ce qu'une technopole ?
Une technopole forme une ville dévolue à la haute technologie, concentrant recherche et innovation. Ce modèle, nous le connaissons tous à travers les exemples de la Silicon Valley en Californie ou de Sophia Antipolis sur la Côte d'Azur.
C'est aussi ce qu'on appelle le modèle grenoblois qui articule plus précisément pouvoir public et secteur privé autour de l'excellence scientifique et technologique. Gilles Novarina nous donne de nouveau son point de vue.
La technopole qui se rêvait métropole. Je pense que Grenoble est une ville internationale, avec une mixité de population, avec des gens qui viennent de l'extérieur. Et elle est connue pour sa spécialisation scientifique. Et ça, ça a été ce qui a fait aujourd'hui le développement de Grenoble. Je pense qu'aujourd'hui, Grenoble doit changer de cap. La spécialisation scientifique, l'excellence scientifique ne suffit plus. Pour être métropole, il faut être en mesure de mettre ensemble des ingrédients qui sont des ingrédients différents. Donc bien entendu, le développement technologique. Sans doute la ville créative. Et la ville créative, ce n'est pas simplement les activités culturelles, c'est des activités culturelles branchées sur la société, branchées sur le développement économique. Une maison de la culture ne suffit pas, il faut des activités de design, il faut des activités liées à la mode, il faut des choses qui sont sur le web, par exemple, sur le design, le web design, par exemple. Et toutes ces choses-là manquent cruellement à Grenoble. Et je pense que le nouveau défi de Grenoble, c'est d'imaginer un développement économique, un développement social appuyé sur différentes choses, appuyer aussi sur la qualité de son environnement, sa liaison à la montagne qui n'existe pas aujourd'hui. On prend un téléphérique qui arrive en haut de la Bastille mais qui n'arrive nulle part. Il faudrait avoir des liens plus importants, peut-être par téléphérique, peut-être autrement, qui soit aussi capable d'imaginer qu'autour d'elle, elle a une agriculture qui peut fournir des produits de qualité, développer la restauration, imaginer toute une série d'activités, par exemple Zurich est connu pour des sacs qui sont faits avec les bâches de camions, donc imaginer ce type d'activité, c'est seulement à cette condition, si on arrive à mobiliser un certain nombre d'énergies créatrices dans la société civile, que Grenoble pourra devenir métropole.
Grenoble vit actuellement encore sur le modèle de la technopole, si l'on reprend les termes de Gilles Novarina. Pierre Belliriz nous explique les difficultés de ce modèle urbain.
Elle vit sur l'idée de l'innovation, et l'innovation, la modernité, c'est délicat, c'est un peu comme un oiseau, on court toujours après, plus on s'en approche, plus il s'éloigne, et du coup, voilà, c'est la fuite en avant. C'est pas facile de courir après cette vocation d'innovation et de modernité.
Comme on l'a vu dans le quatrième numéro de Gracianopolis, Grenoble possède clairement une dynamique économique basée sur l'innovation. Cependant, ce secteur ne représente que 30% des emplois de la métropole. Le secteur industriel reste important avec 16% des emplois. Et il est majoritairement sous capitaux étrangers, ce qui souligne la dimension internationale de l'économie locale. Magali Talandier revient sur cette situation économique.
On parle du modèle grenoblois, c'est de cela dont on parle, c'est l'articulation entre acteurs économiques, industrie, recherche et formation. C'est le troisième pilier, avec l'acteur public qui joue un rôle décisif pour mettre aussi ces trois piliers en relation. Alors c'est vrai qu'on est sur un territoire qui a une histoire, qui a un savoir-faire en termes d'innovation, qui a un savoir-faire aussi pour faire connaître cette capacité grenobloise à être innovant. Le projet Giant est un projet symbole emblématique qui donne à Grenoble un profil de cité de la connaissance, de technopole, qui est un véritable atout. Mais par contre, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que ce modèle est nécessaire, mais n'est pas suffisant. C'est-à-dire que penser que le développement économique de Grenoble coulera toute seule sur la base de ce type d'économie, ça c'est terminé. Ça ne suffira pas à entraîner toute la population et tous les territoires autour dans un chemin de développement et de croissance. Et l'impact de la crise dont on a parlé précédemment a souligné ce problème-là, cette déconnexion. Donc faisons attention à bien faire en sorte que tous les wagons soient attachés et qu'on soit tous sur le même train.
Toujours avec Magali Talandier, explorons maintenant un secteur en devenir de l'économie métropolitaine.
Il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact du tourisme comme secteur économique. Le tourisme en France, c'est majeur. C'est la première industrie au monde. C'est l'an dernier 150 milliards de dépenses touristiques sur l'ensemble du territoire national. C'est un secteur clé de la croissance économique française. On n'est pas dans du mou, quoi. On est vraiment dans du hard, dans des leviers majeurs du développement économique. Et il n'y a aucune raison que Grenoble n'en profite pas, que Grenoble et ses territoires autour n'en profitent pas. Donc on a une carte à jouer sur ce levier-là aussi du développement, et pour le coup, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait grand-chose. Donc je dirais, quelque part, là, tout est ouvert. On a vraiment un levier d'expansion en termes d'emploi et d'essor qui me semble colossal. Alors, l'émission est consacrée à l'idée de métropole, de métropolisation. Bon, voilà, Grenoble sera une métropole dans laquelle il va y avoir une station de ski.
Cette vision se base sur le poids du secteur touristique, relativement bas dans l'économie métropolitaine actuelle. Le développement de Grenoble passera par la valorisation de son cadre de vie, ce que nous verrons tout de suite après un petit interlude musical.
Tel que je me présente à vous, avec mes chansons dans les bras, je ne vais pas vous faire le coup de ma province, de sa saga. N'attendez pas que de ma bouche s'écoule ce folklore prévaché, que des chanteurs plus ou moins louches vous fourguent à longueur d'année. Je suis tout seul devant ma feuille quand j'accouche de mes derniers nés. Mes ascendants portent mon deuil, je viens simplement de Grenoble en Dauphiné. Je vous demande bien pardon de n'être pas né occitan, basque, alsacien ou bien breton, pas même corse, pas même normand. Le handicap est lourd, pourrais-je le remonter en adagio, alors qu'aujourd'hui même les Belges viennent chanter à la radio. Sur qu'on verra bientôt les Suisses mettre à tâter du métier, conserverai-je un coin de piste avec l'étiquette Grenoble. En Dauphiné, pas sûr. Je sens que vous êtes déçus de comprendre toutes mes répliques. Je sais que vous auriez voulu un parler bien plus exotique. Mais sachez qu'autour de chez moi, même dans le plus petit village, on parle pas le moindre patois, le moindre dialecte dommage. Et je n'ai pas d'autre moyen à l'heure de me mettre à chanter que m'exprimer en parisien, moi qui viens pourtant de Grenoble. En Dauphiné, c'est comme ça. Si au moins j'avais pu pousser en mauvaise herbe de cité, si j'étais black, beurre ou bronzé, un ex-sauvageon rangé, si je poursuivais la retape jusqu'à vous traiter d'enfoiré, si je vous balançais du rap au lieu de faire dans la bourrée. Comme vous êtes pour le consensus, je sais que vous m'applaudiriez. Et là, je ne suis qu'un con, sans plus, né au centre-ville à Grenoble, en Dauphiné. Je suis pas aidé, moi. Au moins pour ne pas être en reste, j'aurais bien dû fouiller l'histoire. Mais chez nous, on fait de beaux gestes, nous n'avons eu que des soudards. J'accepte certes ce bon mandrin, me ferait-il encore recette quand des pirates aériens font la une de nos gazettes. Aussi pour écouter la suite, je vous abjure d'oublier que je suis né et que j'habite quelque part qui s'appelle Grenoble, en Dauphiné, eh ouais. Grenoble, c'est encore un peu la Suisse, mais déjà presque le midi. Grenoble, le berceau de la Révolution, Mendès France, la ville la plus plate de France. Ses noix, sa place Grenette, le ski à Champs-Rousses le dimanche, Stendhal, qu'il aimait pas, le gratin dauphinois, le téléphérique de la Bastille, Minatec et Europol, Dubedou, Carignan, le maire d'Estaut et son grand stade, le parc Mistral et ses acrobranchistes, la tour Perret, Lili Fayol, Gendré Jacques, les Fugains Péréfis, les Gants Perrin, Jean Prévost et le maquis du Vercors, les Noix et le gratin dauphinois. Quoi? Je l'ai déjà dit? Bon, alors on recommence. Grenoble, Mendès France, la ville la plus plate de...
C'était de Grenoble en Dauphiné de Jean-Pierre Andrevon, un artiste local qui gagnerait à être connu.
Une des particularités de Grenoble est d'être une ville située dans le sillon alpin, entre les massifs de Chartreuse, de Belledonne et du Vercors. Elle est implantée dans une plaine en fond de vallée, formée d'un Y si reconnaissable. C'est ce que nous rappelle ici Henri Torgue, professeur à l'école d'architecture de Grenoble.
C'est un espace qui est fortement contraint par le site géographique dans lequel il est. Il faut en faire un avantage. Il ne faut pas lutter contre, il faut tenir compte de ces contraintes, mais il faut en faire un avantage, parce que sans ça, on ne pourra pas lutter contre le site géographique. Alors, pour l'instant, on n'occupe pas les pentes, il y a plein de choses qui sont en développement dans cette possibilité-là.
Alors, dans ce site atypique, la ville de Grenoble s'est implantée au fond de la plaine, à la confluence de l'Isère et du Drac, et les villages alentours au pied des pentes. Petit à petit, la cuvette s'est urbanisée, notamment grâce à la canalisation des deux rivières qui a permis l'assèchement de la plaine et l'installation progressive de la ville. Celle-ci a alors fusionné avec les villages pour former une agglomération urbaine qui nous offre aujourd'hui un panel de paysages variés.
On a une diversité de situations. Chaque quartier évoque des choses, mais aussi chaque ville, chaque village, chaque posture, selon qu'on est adossé à tel ou tel massif, est derrière, pour nous, sous-tend une manière d'habiter singulière.
On vient d'entendre Serge Gros, directeur du CAUE 38, le Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement de l'Isère. Il évoquait les différentes manières d'habiter, les différentes formes d'habitat qui existent sur notre territoire. Avec lui, lors de la troisième émission, nous avons parlé des grands ensembles avec l'exemple de la Villeneuve, des écoquartiers à travers la caserne de Bonne, du périurbain et de l'habitat participatif avec l'association qui en fait la promotion dans l'agglomération.
Nous reviendrons sur chacune de ces thématiques dans des émissions qui leur seront plus particulièrement consacrées, comme nous l'avons fait pour l'habitat participatif lors de notre 8e numéro. Mais avant cela, voyons ce qui se passe du côté des dynamiques sociales et culturelles.
C'est aussi un territoire qui, je trouve, qui a un grand dynamisme finalement, économique, scientifique, ça tout le monde le sait. Mais je trouve aussi qu'il y a un très grand dynamisme culturel, y compris sur des cultures un peu alternatives. Et ça, je trouve que c'est assez rare et c'est assez précieux pour le territoire en fait finalement. Et je trouve que c'est un véritable melting pot aussi ce territoire. Il y a une diversité de populations, je trouve, qu'on trouve... Peut-être qu'on trouve peu ailleurs en France, parce que j'ai fait pas mal de vignes, et c'est vrai que c'est un Grenoble, pour ça, c'est assez attachant.
Grenoble ne fait donc pas seulement preuve d'un dynamisme scientifique et technologique. Gabriel Jourdan, qui partage ici son expérience personnelle, révèle une richesse culturelle. C'est ce que nous avons exploré dans le quartier Saint-Bruno au cours du 6e numéro de Gracianopolis.
Dans cette zone du centre-ouest de la ville se côtoient des populations de différents niveaux sociaux et d'origines variées. Cohabitent des espaces culturels municipaux, des espaces autogérés, des squats et de grands marchés aux exposants variés.
Ce que tu nous décris là, ça rejoint le melting pot dont nous parlait Gabriel Jourdan. Dans la même logique, Magali Talandier dépeint un futur souhaitable pour la métropole grenobloise.
C'est un territoire équilibré, c'est-à-dire c'est un territoire qui prend conscience, en effet, de sa connexion au reste du monde, mais qui n'oublie pas pour autant la complémentarité, la mise en synergie entre les différents territoires qui va composer cette métropole, dedans et dehors, entre les différents types de populations qui composent cette métropole, les différents types de cultures. Donc voilà, donc c'est rester connecté au reste du monde tout en se souciant de son équilibre interne. J'aimerais bien vivre dans une métropole dans laquelle des gens qui n'y sont pas ont envie de venir y vivre, s'y installer, étudier, travailler, passer leur retraite, et puis une métropole dans laquelle les gens qui y vivent ont envie de rester. Donc voilà, donc donner envie de venir et donner envie à ceux qui y vivent d'y rester et d'y passer du temps et de bien vivre ensemble cette métropole.
Cette métropole attrayante ressemble à un vœu pieux. Nous verrons ce que nous réserve le futur. Pour pallier au manque de logements, on peut également espérer l'émergence de nouveaux projets d'habitat impliquant les futurs usagers.
La métropole grenobloise, je pense que c'est un territoire moteur pour les initiatives sociales et citoyennes, et on espère que ça permettra à l'habitat participatif de fleurir un peu partout dans l'agglomération.
Nous venons d'entendre Camille Chex de l'association Les Habiles, qui évoquait son souhait de voir l'habitat participatif se développer partout sur notre territoire.
Et nous aurons l'occasion de voir ce qu'il en est, entre autres avec l'appel à projet en 2016 de la métro qui mettra des terrains à disposition pour l'habitat participatif. On suivra évidemment les avancées de ces projets dans Gracianopolis dès septembre prochain.
Cette démarche sur l'habitat participatif démontre l'importance d'une organisation qui porte un projet intercommunal. C'est l'objectif des métropoles de mener des projets communs. Serge Gros nous explique tout de suite l'opportunité que représente la création de cette institution pour Grenoble.
La métropole grenobloise, c'est une chance extraordinaire finalement de réconcilier l'environnement urbain qui commence à être assez marqué par les constructions et un cadre de vie exceptionnel.
Alors cette intervention très optimiste ne masque pourtant pas des enjeux propres au bassin de vie. Il ne nous échappera pas que l'un des enjeux de la construction métropolitaine est de rapprocher le pouvoir des préoccupations des habitants, comme l'indique Henri Torgue.
Je vois les choses à l'échelle de la région urbaine et pas de la ville ou des communes ou des choses comme ça, parce que le fonctionnement, il est à l'échelle de cet ensemble-là. Les gens vont faire leurs courses à tel endroit, ils traversent sans s'occuper qu'ils sont dans une commune ou dans une autre. Ils ont conscience de la commune où ils habitent, bien entendu. Mais ça n'est pas pour ça que leur pratique suit ce quadrillage-là. Si les usages sont à l'échelle de la région, la décision, elle appartient à des morceaux, elle est morcelée. Elle est morcelée dans les différents étages de l'administration française, entre les communes, le conseil général, la région, la métropole, etc.
On espère effectivement que la métropole clarifiera les prises de décision, notamment dans le domaine de l'aménagement où l'on compte sur un réel échange avec les habitants de l'ensemble du territoire. Si ces décisions sont mises en débat, cela ne peut que nous satisfaire et nous ne manquerons pas d'en discuter avec vous dans de prochaines émissions. En tout cas, nous tâcherons d'aborder les enjeux et les questions liées à la métropole l'année prochaine.
Pour beaucoup d'entre nous, cette construction institutionnelle reste encore floue. ce qu'exprime Cédric Avenier, professeur à l'école d'architecture de Grenoble. Il souligne également la nécessité d'une mise en place collective dans un souci d'intérêt général.
C'est peut-être une nébuleuse en cours de formation. C'est un conglomérat de plusieurs communes, municipalités qui étaient différentes, indépendantes, et puis qui ont grandi et qui finalement maintenant marchent épaule contre épaule et elles commencent à se donner la main. C'est peut-être ça qui est intéressant. Hein. La vallée a besoin que les gens se donnent la main pour aller dans le même sens.
La création de la métropole au 1er janvier 2015 à Grenoble prolonge en effet une longue histoire de l'intercommunalité dans la cuvette. Une histoire qui commence en 1966 avec la création d'un syndicat intercommunal d'une vingtaine de communes. L'intercommunalité s'est ensuite constituée en 1994 en communauté de communes, puis en 2000 en communauté d'agglomération. Au début, 2015, l'intercommunalité devient alors une métropole comme 13 autres territoires en France et elle compte 49 communes.
Lors de notre cinquième émission, nous avions évoqué la création de la métropole en compagnie de Frédéric Jacquard, le responsable de la construction métropolitaine. On l'écoute tout de suite, il nous explique la métropole vue depuis l'intérieur du processus de fabrication.
Le projet métropolitain, il va s'axer sur le fait que la métropole, ce n'est pas une zone centrale et puis des couronnes successives. On est vraiment sur un territoire polycentrique. Et l'idée, c'est justement de faire en sorte que grâce à la métropole, on ait un développement équitable sur l'ensemble du territoire, qu'il n'y ait pas une seule commune qui ne bénéficie pas en fait, de ce développement territorial. Je crois que la transition énergétique, c'est vraiment un des axes de ce projet métropolitain. Il y a également, je pense, la solidarité qui est un des atouts que possède Grenoble et grâce à cet outil qu'est la métropole, puisque la métropole c'est un outil, grâce à cet outil ça permettra de conforter ces politiques de solidarité et le PLUI permettra d'asseoir la cohésion territoriale. Donc on est bien sur une métropole polycentrique où chaque commune a sa place et le projet est bien de développer sur l'ensemble du territoire les services au bénéfice des habitants.
Avec le statut de métropole, l'intercommunalité augmente donc ses compétences en nombre et en qualité. Aux compétences déjà exercées de l'habitat, de la politique de la ville, de la protection de l'environnement, des déchets, des déplacements et des eaux usées, viennent se rajouter de nouvelles compétences autrefois exercées par les communes, l'eau potable, l'urbanisme, les voiries, l'énergie, le développement économique et la promotion touristique. Ce statut donne donc plus de moyens d'action dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports.
Mais la construction de la métropole est un processus lent qui va durer au moins un mandat. Par exemple, le service de distribution de l'eau potable ou le plan local d'urbanisme intercommunal, donc adapté à toutes les communes de la métropole, sont des mesures qui vont prendre plusieurs années à mettre en place.
Rendez-vous donc en 2020 pour faire un bilan, ou chaque mois, à partir de septembre 2015, pour suivre la construction de la métropole dans Gracianopolis. Ce dixième numéro et dernier de l'année de Gracianopolis touche maintenant à sa fin.
On souhaitait donc remercier Radio Campus qui nous a permis dès octobre dernier de faire de la radio. Merci à Sylvain qui a cru en notre projet, à Elisabeth qui nous a donné des conseils pour le journalisme radiophonique. Merci également à Thomas pour les conseils techniques et les conseils sur le montage audio. Merci au nouveau de Radio Campus, Malika et Denis pour leur bonne humeur. Merci à nos invités, aux collègues et amis qui nous ont soutenus et aidés. Et puis un grand merci à tous les Grenoblois qui nous ont soutenus et que nous avons rencontrés pour les micro-trottoirs.
On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions mensuelles et d'autres surprises. En attendant la rentrée, vous pouvez toujours nous réécouter sur notre audioblog mixcloud.com/gracianopolis et sur Facebook. D'ici là, bon été à tous, merci de nous avoir suivis et nous attendons en septembre sur Campus Grenoble pour suivre l'actualité de la métropole grenobloise.